Bienvenue à cette causerie avec l'auteur Larry Tremblay. Le déroulement de la rencontre se fera ainsi. Je dis quelques mots d'introduction. Par la suite, je vais inviter Larry à nous lire un extrait d'un premier texte, à la suite de quoi on aura un bref échange et on ira vers vous. Pour si vous avez des questions, des commentaires. Alors, j'animerai cette rencontre. Je me nomme Gilbert David. Je suis professeur au département de littérature de langue française de l'Université de Montréal. Et ma spécialité est la dramaturgie. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose que de théâtre, puisqu'on a décidé d'un commun accord, Larry et moi, puisque c'est une sorte d'avant-première. Il est prévu pour le 30 mars 2007 une journée d'études consacrée au théâtre de Larry Tremblay. Donc, on a décidé de réserver à cette journée les réflexions sur sa dramaturgie. Il ne sera pas interdit, bien sûr, d'y faire référence. Moi-même, je ne m'en priverai pas. Mais on va essayer d'explorer d'autres facettes de son travail d'auteur. Et je vais le présenter à l'instant, en disant d'abord qu'il vient de se mériter un prix prestigieux décerné par le Conseil des arts du Canada en théâtre, et le prix a pour nom Victor Martin Lynch Staunton, excusez mon anglais, et ce prix est décerné à différents artistes dans différentes disciplines, et Larry Tremblay a mérité ce prix en théâtre. Donc, ça couvre tous les aspects, mais plus particulièrement pour son comme auteur de théâtre. Je vais vous lire ce qu'on écrit, c'est une courte note. Larry Tremblay est né à Chicoutimi. Il est écrivain, metteur en scène, acteur et spécialiste de Katakali, une forme de théâtre dansé des Indes. Il a publié une vingtaine de livres, théâtre, poésie, essais, récits et romans. Il compte parmi les auteurs dramatiques québécois les plus joués et les plus traduits dans le monde. Ses nombreuses œuvres, Le déclic du destin, Leçon d'anatomie, The Dragonfly of Chicoutimi, qui est une œuvre, je pense, qui a été un pivot, je pense, dans sa carrière, Les mains nues, Les mains bleues, pardon, ouais. Téléroman, Ogre, Le ventriloque, ont été joués dans une dizaine de pays. Récemment, d'ailleurs, il arrive de Roumanie, où on a traduit Le ventriloque, c'est bien ça, et j'ai eu l'honneur de préfacer cette pièce, qui a été, bien sûr, aussi traduite en roumain.
Oui.
Récemment, Larry Tremblay écrivait pour la scène le livret d'opéra A Chair in Love, que j'ai vu, c'est un magnifique spectacle, ça fait amusant et tout à fait pertinent, je pense, sur son propos d'un amour étrange, ainsi que l'histoire d'un cœur et la hache, donc qui est un récit qui vient de paraître chez Gallimard, sous le titre de Piercing, donc il y a trois récits, dont la hache, qu'il a adapté au théâtre, si on peut dire. Bon, enfin, c'est une version théâtrale de ce récit qu'il a mis en scène lui-même le printemps dernier au théâtre de Catsou. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus longuement tantôt. Il a publié un roman intitulé Le mangeur de bicyclettes en 2002, salué unanimement par la critique. En 2006, je viens de le dire, il publie Piercing. Il enseigne le jeu et l'écriture dramatique à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Et l'écriture dramatique, il y est venu tard pour l'enseigner.
Oui.
Parce qu'il se refusait, je pense. On pourra peut-être en parler. Alors, voilà quelques notes de présentation. Je voudrais aussi peut-être évoquer un souvenir, puisque je connais Larry depuis 20 ans. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était en tant qu'acteur, puisqu'il jouait tous les rôles, sauf ceux d'un cœur qui était joué par quelques autres comédiens dans une production des Têtes Heureuses, c'était bien ça. Mm-hmm. Donc, de la pièce bien connue de Normand Charette, Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans. Et c'était une production magnifique et il était une véritable révélation dans ce rôle Donc, ça a été le premier contact, et c'était à Chicoutimi même que je l'avais vu. Et par la suite, c'est en 87, hein, au Festival de Théâtre des Amériques.
Pour être plus précis, 85.
Ah ouais, le tout premier, donc. Ouais. Donc, par la suite, ce spectacle, je l'avais revu lors de sa présentation dans le cadre du festival, le tout premier Festival de Théâtre des Amériques. Alors, je voulais évoquer cette figure de l'acteur, parce qu'à mon avis, c'est un peu le fil rouge ou le fil conducteur, je dirais, du travail d'auteur aussi de Larry. Son travail du côté de la danse classique indienne, le Kathakali, à mon avis, a informé non seulement son corps, si je puis dire, mais aussi son écriture. Et on pourrait peut-être parler d'une surconscience corporelle qui fait écho à la surconscience linguistique qui est bien connue aujourd'hui grâce aux travaux de Lise Gauvin sur la question. Mais ici, on se trouve, je dirais, à cheval sur ces deux surconsciences qui sont peut-être justement en tension. Ça pourrait être intéressant peut-être d'en parler.
Je ne sais pas s'il existe des surinconscients.
Oui, sûrement, heureusement. Bien. Alors, sur ces quelques remarques préliminaires, Larry a décidé de choisir un texte qui est paru dans un recueil consacré à la littérature par elle-même, qui faisait écho à un ouvrage similaire qui avait paru à peu près 25 ans plus tôt, voire plus.
Plus que ça, je
40
crois.
40 ans,
hein, ouais, je crois. C'est 40.
Dans les années 60. Mm. Et voilà qu'on récidivait, donc c'est Catherine Morancy, qui est l'éditrice de ce recueil. On a demandé à des écrivains de se prononcer sur l'état actuel de la littérature québécoise. Et bon, Larry est allé d'un texte qui a intitulé « Résister à la litté-réalité ». Alors, je lui laisse présenter et son texte et l'extrait qu'il a choisi de lire.
En fait, pour moi, c'est toujours plus facile de théoriser, entre guillemets, avec de la fiction. Quand on me demande d'écrire une conférence, un papier, mon premier réflexe, c'est d'aller dans la fiction, ce qui n'est pas toujours bien adapté à des colloques ou des choses comme ça. Alors, cette fois-ci, pour cette demande du Krill, que j'ai aussi je suis passé par la fiction et j'ai imaginé... la question plutôt, c'était de se positionner par rapport à la littérature au Québec ou en Amérique, d'une façon assez générale aussi. En termes de responsabilité, c'est quoi la responsabilité des écrivains? C'est des questions que je me souviens adolescent qui me passionnaient parce que, évidemment, le livre qui était le plus connu à l'époque, c'était de Sartre, « Qu'est-ce que la littérature ?» Je pense que tout le monde connaît à peu près ce livre-là, alors il m'en restait de grands morceaux dans la tête. Et j'ai décidé d'imaginer une situation où un jeune écrivain écrivait une lettre à un écrivain plus âgé, et lui faisait part de ses angoisses sur la littérature. Il se posait la question, ce jeune écrivain, si la littérature n'était pas en train de mourir, d'être obsolète, et remplacée par autre chose. Et l'écrivain lui répondait à sa façon aussi. Et donc, ce qui fait que ce texte-là est exacerbé, il n'est pas trop subtil, parce que le fait de se projeter dans des personnages nous permet d'arrondir les coins, d'aller plus loin, de poétiser certains passages. Comme c'est plus une causerie, je voulais vous lire juste le début. Et puis, au fil de la conversation, si ça se prête, je pourrais peut-être lire d'autres extraits qui pourraient mieux expliquer ce que j'entends par la litté-réalité, qui est, en fait, c'est un néologisme que j'ai forgé, qui est inspiré de la télé-réalité. Alors, j'ai établi un parallèle entre une littérature qui serait obsédé par l'ego, j'appelais ça l'ego extrême, comme le sport extrême, donc on a l'ego extrême, on est dans une société de l'ego, et où la pensée est remplacée par le vécu, et c'est ce qui se passe dans la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de penser, de réfléchir, on a simplement à vivre et à être médiatisé dans ce vécu, et c'est suffisant pour créer l'événement avoir une vision du monde, finalement. Et il y a une sorte de littérature qui, selon moi, devient aussi un peu télé-réelle, que j'appelais donc littérature. Non, littéréalité. C'est pas évident, hein, ce mot-là. Il y a toujours de l'allitération. Alors, le début, donc, c'est l'écrivain qui répond au jeune écrivain. Je vais vous lire ça. Vous voulez écrire. Vous me demandez ce que j'en pense. Vous me racontez un rêve que vous avez fait. Vous êtes assis dans un métro. Vous relevez la tête pour observer les gens autour de vous. Vous blêmissez. Les gens assis, debout, adossés, tous les gens autour de vous lisent. Vous avez blêmi parce que tous ont le même visage penché, les mêmes yeux attentifs. Tous les gens autour de vous, m'avez-vous écrit, lisent le même livre. Quand le métro s'arrête à une station, d'autres gens entrent avec le même livre. Vous ouvrez votre sac et vous cherchez quelque chose. Vous ne savez pas ce que vous cherchez, mais vous cherchez quand même. Quand vous trouvez, vous vous réveillez. Vous savez alors que vous cherchiez le livre que tous les gens autour de vous lisaient. Et vous l'avez trouvé au fond de votre sac. Vous m'avez écrit que ce rêve, vous l'avez vécu comme un cauchemar, parce que sa signification ne laisse aucun doute. Vous auriez préféré plus de mystère ou de confusion. Mais le dormeur que vous avez été cette nuit-là a été impitoyable et ne vous a pas laissé le choix de comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Vous me demandez si je partage votre angoisse. Vous voulez en fait que j'habille de mes propres mots votre interrogation. Vous cherchez un peu d'air et vous pensez le trouver chez un écrivain qui a derrière lui quelques livres de plus que vous. Car vous avez sans doute aussi couché sur le papier quelques livres. Bien sûr, ils ne sont pas publiés et vous n'avez pas osé les appeler des livres. Quelque chose vous retient. Écrire, oui, mais publier, à quoi bon? Vous me demandez, la littérature n'est-elle pas une chose obsolète, moribonde, dépassée? Vaut-il mieux pour son propre respect qu'elle demeure dans les tiroirs des angoissés qu'il a créés contre toute attente? Qui, en effet, l'attend, l'exige, la désire? Quelques lecteurs. Et vous ajoutez, le littéraire fait peur, surtout aux éditeurs qui répugnent de plus en plus à le publier. Trop risqué, pas pour leur lectorat. Bref, le livre s'éloigne de la littérature. Vous vous plaignez donc dans votre lettre et vous m'avouez que vous ne ressentez aucune honte à le faire. Vous vous déclarez lucide et impuissant. Vous aimez la littérature, vous en avez besoin, mais un doute vous tenaille. A-t-elle fait son temps? Notre époque a perdu patience pour les subtilités du littéraire. La vitesse ne lit pas, la littérature devient illisible. À croire qu'un mauvais sort s'acharne sur elle pour la retourner aux hiéroglyphes et aux alphabets gravés dans la pierre. On attend d'un livre qu'il se livre, non qu'il se lise. Vous soulevez de la boue, vous dressez un tableau sombre, vous exagérez, vous visez, vous touchez. Vous attendez de moi des mots, du réconfort peut-être. Vous voulez savoir si la littérature vaut un sacrifice, si elle a encore quelque chose à dire et à faire dans ce monde qui la rejette. Que vous répondre? Que je suis impuissant et lucide comme vous, et paranoïaque. Oui, dès que je tourne le dos au monde, celui-ci me prépare un mauvais coup. Un aveu étonnant fait un inconnu, n'est-ce pas? Le monde, moi, deux ingrédients essentiels à l'établissement d'une paranoïa solide. Il y a d'une part beaucoup trop et d'autre part trop peu. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'était le petit passage, c'est le début là, du texte en question. Donc ça met en scène le plus jeune et le plus âgé. Et les deux, finalement, sont assez moroses. Et puis, donc, l'écrivain va abonder dans le sens du jeune, mais il va quand même lui proposer des avenues, et c'est là qu'il va lui proposer ce néologisme de réalité. Donc, je pourrais peut-être lire d'autres extraits plus tard. Si,
oui, non, on va entamer notre conversation amicale sur ces premiers mots que tu as lus. Moi, j'ai retenu une citation de la presque toute fin de ton texte, qui dit ceci: la littérature, qu'elle soit théâtrale, romanesque ou poétique, pose la question de l'altérité à partir d'une identité jouée et déjouée. Et cette phrase m'a beaucoup frappé. Le thème de l'altérité n'est pas neuf, bien entendu, mais ainsi posé, c'est-à-dire quand tu fais d'une identité jouée et déjouée. Qu'est-ce que tu entends par là et en quoi tu, dans ton geste d'auteur ou dans ta façon d'écrire, tu penses travailler dans ce sens-là?
Ben, c'est la question du même, c'est-à-dire que La plupart des conflits, c'est toujours basé sur la recherche, la quête d'identité, enfin, ce que je suis moi, pourquoi je le suis, d'où ça vient cette origine, et puis la confrontation avec l'environnement, et puis avec tout ce qui dépasse l'environnement immédiat. Et dans une société comme la nôtre, enfin au Québec, l'écrivain québécois est d'emblée interloqué, et en fait, on n'a même pas besoin de se poser la question, on lui dit qui suis-je en naissant. Et on doit en fait ne pas. Enfin, moi j'ai appris à ne pas m'hypnotiser là-dessus. Je l'ai fait à un moment donné, mais je me suis aperçu que c'était un piège de tout fonder son attitude, sa création, son imaginaire sur, sur ce qu'on est. La littérature, pour moi, c'est plus un appel vers l'autre, un signe vers l'autre. Et c'est dans cette dynamique que. On reçoit suffisamment d'informations pour se positionner aussi dans le monde. Mmh. Quand j'ai écrit « Jouer et déjouer », c'est parce que pour moi, le fait d'être quelqu'un, c'est aussi une création. On se crée soi-même à partir aussi de ce qu'on fait avec les autres. Et on ne doit pas se fanatiser sur soi-même. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, puis je ne vais pas bouger, etc. etc. Bon, c'est plus facile pour moi de le dire parce que j'ai une formation d'acteur. Et un acteur, ça joue. Et ça joue les autres. Et ça se reconnaît et se connaît et se forme et s'interroge à partir des personnages qu'il joue. Et c'est une connaissance de soi-même à travers les autres. Donc c'est peut-être le fait que j'ai été acteur et que j'ai dirigé des acteurs que c'est peut-être plus facile pour moi de théoriser là-dessus ensuite. Mmh. Mais je m'aperçois que toutes mes pièces, finalement, posent la question de l'identité toujours fracassée, concassée, mise en doute... elle n'est jamais donnée pour toujours. Mmh. Et que s'il y a un personnage, on va découvrir 25 minutes après qu'il y en avait un caché déjà dans le personnage et on peut même en trouver un autre et un autre et un autre. Donc, c'est formidable puisque c'est une grande liberté de comprendre qu'on a en soi beaucoup de potentialités. On peut être différentes personnes. On peut se déjouer soi-même, on peut se jouer des tours, on peut se rejouer, et ça donne de la distance. Et finalement, on est peut-être, comme je disais tout à l'heure, moins porté à se solidifier dans des positions. Ben, ça peut être des positions, évidemment, sociales et politiques. Au départ, moi, j'avais une sorte de fixation sur la langue française. Je trouvais ça important de défendre la langue française ici en Amérique. Et c'est pourquoi j'ai écrit « The Dragonfly of Chicoutimi ». Je cherchais une façon théâtrale d'exprimer l'angoisse qui m'habitait à l'époque par rapport au fait que le français pourrait un jour disparaître. Je me suis mis à lire des livres sur la fragilité des langues. Alors, un jour, je suis tombé sur un livre qui disait qu'il y a à peu près, je ne sais pas, 500 langues par année qui meurent. Je me dis, mon Dieu, c'est très fragile une langue. Et ça prend quelques générations pour la perdre. Ben, dans ma propre famille, j'ai une tante qui, finalement, est née à Chicoutimi, est partie en Ontario. Et puis maintenant, le français, il n'y a presque plus de français dans sa bouche. Donc, ça ne prend pas beaucoup d'années pour perdre le français. Mais à l'époque, je croyais peut-être naïvement que ce que nous étions, c'est ce que nous parlions. D'où, et c'est pourquoi j'ai écrit le Dragonfly of Chicoutimi, parce que lui, il essaie d'être ce qu'il est, en croyant que ce qu'il est, c'est ce qu'il dit, ce qu'il parle. Mais après l'écriture de Dragonfly, j'ai continué à réfléchir et je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est simple, parce que si, quand on est, on ne parle pas, on est un enfant ça veut dire ne pas parler, et la langue nous vient de l'autre. Alors, notre langue maternelle, c'est pas notre langue à nous, c'est pas une langue personnelle. Donc la langue est toujours la langue d'un autre. Alors, c'est la langue de ma mère, oui, mais je ne suis pas ma mère. Et donc, finalement, je ne suis pas totalement ce que je dis. Je suis toujours un petit peu en retrait ou au-delà d'eux. Et ça m'a aidé à écrire d'autres textes dramatiques qui étaient encore un peu plus sur le jeu et le fait de jouer, déjouer les choses. D'où, après, j'ai écrit Le Ventriloque et récemment une autre pièce où je vais encore un peu plus loin dans ce jeu de...
Donne le titre parce qu'il est magnifique.
Abraham Lincoln va au théâtre. Je suis allé un petit peu plus loin encore que dans le ventriloque et je m'amuse donc à poser la question de l'ego par rapport à l'être. et je dépasse donc l'équation entre l'être et la langue. Mais pour moi, c'est extrêmement important, la langue, mais ce n'est pas tout. Donc, ça me donne encore plus de liberté.
Je suis bien d'accord. J'aimerais que, cependant qu'on essaie de fouiller dans le titre de ton essai, résister, donc, du point de vue de la résistance à cette littéréalité. Est-ce que tu as imaginé des moyens précis ou c'est le fait même d'écrire en lui-même qui constitue pour toi ta résistance?
En fait, ça vient d'une réflexion que je me suis faite il y a quelques années. Je me suis aperçu que je pensais de moins en moins, que je devenais bête.
Oui, dans ton texte, d'ailleurs, tu fais de l'auto-ironie.
Oui, j'en fais pas mal. Non, mais c'est vrai, je devenais bête parce que j'appelle ça la contamination. Mm-hmm. Je me suis aperçu que j'étais contaminé, comme beaucoup de personnes, finalement, par tout ce que j'absorbe, comme tout le monde, par les informations, les médias, enfin, par une espèce de mollesse, de lâcheté, de manque de vigilance, ce qui fait que je m'encrassais, je lisais moins de choses, j'étais dans ma routine aussi, et ça m'a fait peur, parce que moi, j'ai une espèce d'admiration pour ce que j'étais quand j'étais adolescent. C'est peut-être du narcissisme, mais j'aime l'ado que j'étais, parce que j'étais très en révolte, baveux. J'étais pas commode, je pense. Mais sauf que j'aurais... Comment rester adolescent, c'était pas évident. C'est en pensant à ce que j'étais que je me suis parlé à moi-même et je me dis, mais là, ça se peut pas, là, il faut que tu te réveilles. Puis que tu... Donc, je me suis lancé des défis. Alors là, je me souviens qu'un des défis que je me suis donné, c'était de donner un cours au doctorat en méthodologie. C'est vraiment un défi un peu stupide, là, mais pourquoi? Parce que ça m'oblige à lire des choses que je ne lirais pas autrement et ça m'oblige à réfléchir sur toutes sortes de méthodes, que ce soit l'herméneutique, la féminologie ou l'heuristique ou des choses comme ça. Bref, parce que quand j'étais petit, je lisais psychanalyse, sociocritique, avec toutes les choses. Et puis à un moment donné, on arrête de s'intéresser à tout ça.
Ben, on remarque que tu fais bien d'autres choses.
Oui, mais... oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est le fait de réfléchir.
Oui, oui.
Et donc, ça se muscle, ce truc-là. Ah. Et à un moment donné, on s'habitue à tout, puis on s'habitue à tout simplement suivre le courant.
Est-ce que tu as découvert, parenthèse rapide, dans tes lectures plus théoriques, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement frappé, ou d'un point de vue même d'auteur que tu es? C'est-à-dire, il y a toute cette dimension que tu avais délaissée, dis-tu, mais y retourner, c'était pour découvrir... Quoi,
ben en fait, là, c'était un défi que je m'étais donné pour pouvoir transmettre à des étudiants en doctorat, mais en différentes disciplines, mais tous reliés à l'art, pouvoir les aider, les encadrer et puis parler de méthodologie, un sujet que j'aime pas du tout, en fait. Mais je me dis, mais c'est important de faire des efforts. Mais parce que ça, là, je parlais de contamination, parce que tu parlais de résistance, parce qu'il faut d'abord savoir qu'on est contaminé pour pouvoir résister. Alors, c'est une question aussi de prise de conscience. OK, je suis contaminé, j'ai bien beau de critiquer les autres, mais regarde-toi toi-même. Donc, finalement, j'ai fait beaucoup d'autocritique en écrivant ce texte-là. Il y a de l'auto-ironie aussi, parce que c'est sûr, je me projette un peu là-dedans. Et c'est pas que j'apporte des solutions, mais je me dis, c'est mieux de commencer d'abord par se regarder soi-même, ouais. Et ensuite de voir si tu fais quelque chose pour changer ça. L'autre chose qui m'a frappé, c'est, bon, d'un côté, c'est la contamination, de l'autre côté, c'est ce que j'appelle la bêtise. Je m'aperçois qu'il y a énormément de bêtises autour de nous et en soi, et que si on ne réagit pas, elles nous avalent complètement. On n'a qu'à ouvrir certains journaux, ouvrir la télévision, et on applaudit la bêtise, et dès qu'on essaie d'installer un discours un petit peu plus intelligent, on se fait matraquer parce qu'on n'est pas assez divertissant, on ne rentre pas dans le paradigme justement du divertissement. Moi, comme homme de théâtre, c'est évident que divertir, c'est important puisque une pièce de théâtre, c'est aussi un divertissement. Mais s'il n'y a que ça, je pense que la théâtralité s'appauvrit. Je me dis que maintenant, il y a un parallèle entre ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'ego extrême et le vécu qui remplace la pensée, finalement. Et moi, qui suis prof depuis 30 ans, je suis toujours avec des jeunes de 20 ans, Et je vois l'effet que ça a sur les jeunes de 20 ans, enfin, ça veut peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18, 20 ans. Les gens se disent que finalement, en fait, ce que je dirige présentement, c'est beaucoup de mémoire sur l'autofiction. Fait que les gens viennent me voir, ils veulent écrire des pièces de théâtre, mais parler d'eux. Et ça me surprend, mais il y en a de plus en plus.
C'est frappant.
Oui, mais sauf que j'essaie de chercher la vision, le discours, la distance là-dedans. Ce n'est pas toujours évident.
D'accord.
Donc, c'est un phénomène qui s'agrandit.
L'ego, toujours, d'après toi, si j'ai bien compris ton point de vue tantôt, c'est l'ego qui gonfle.
C'est l'ego, mais en même temps, c'est que c'est réduit aussi à une image du corps. Ah, c'est plus complexe qu'on pense, là. Je veux dire, au sens que c'est assez évident qu'on est dans une société où l'image corporelle draine énormément d'argent, de psychisme, de désir. La sexualité, à mon sens, est déficiente. Moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est qu'on voit Enfin, l'érotisme, maintenant, c'est de la marchandise. Mmh. On en voit dans beaucoup de pièces de théâtre, maintenant, on voit des scènes dites érotiques ou de cul, au cinéma aussi, à la télévision, si on ouvre la télé. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais sauf que ça... D'un autre côté, je me faisais la réflexion que plus on voit du cul, et moins on est libre de dire ce qu'on pense. Il y a comme une espèce de jeu de piston entre les deux.
C'est là la complexité, hein. C'est là que ça devient intéressant aussi, même pour toi qui conçois des œuvres de fiction. C'est-à-dire que là, il y a comme, je ne dirais pas un mécanisme, mais en tout cas un processus. En tout cas,
Je ne l'ai pas analysé, j'ai juste eu l'intuition que c'était relié. Je ne voudrais pas aller dans la psychanalyse ou des choses comme ça, mais il me semble que, peut-être ma prochaine pièce, ça serait sur le fait qu'on a de plus en plus de difficultés à dire des choses. Moi-même, je me sens parfois bâillonné. Parce qu'il y a plein de... par exemple, comment expliquer le conflit entre Israël et la Palestine? Comment dire son point de vue là-dessus avec clarté, intelligence, lucidité, souplesse? Si vous vous mettez dans la peau d'un politicien, comment être authentique devant un micro quand on sait qu'on est écouté par des milliers de personnes parlant d'un sujet comme ça? Ben, il y en a plein. Chaque jour, il y a des débats comme ça, mais on n'arrive plus à penser en termes de dialectique. Je suis peut-être un peu mal habile là, dans ce que j'essaie de dire, mais j'ai justement ça le problème, c'est qu'on n'arrive plus à le dire. Alors, j'aimerais ça creuser ça.
Les interdits qui grandissent, alors qu'on prétend que la liberté n'a jamais été aussi grande, c'est tout
non.
Le contraire.
Ben, je pense qu'on est dans une société où le consensus est important. Au Québec, il me semble que c'est encore plus évident qu'ailleurs. On a peur du débat, on a peur du dialogue. Et c'est aussi une qualité quelque part, parce que j'ai écrit il n'y a pas longtemps un texte qui disait que ici, une des particularités, c'est qu'on ne descend pas dans les rues pour se battre. Bon, il y a eu quelques exceptions, là, mais on n'est pas dans l'expression de la violence. Il y a d'autres choses aussi, mais ça, c'est une qualité. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'on ne va pas au bout des choses, on ne va pas au bout de l'action. On piétine, on est dans l'antichambre de l'histoire souvent.
Donc, on a peur au conflit, finalement. On ne veut pas être en un état de conflictuel avec quiconque. Donc, le consensus finit par appauvrir la relation, parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus du conflit, à tout prix.
Non, c'est ça, ouais. Bon, comme homme de théâtre, nous, on aime bien le conflit, l'affrontement, l'opposition. Pas nécessairement pour le mettre, mais c'est parce que ça fait avancer une action, évidemment.
Mmh. Bien. Peut-être ouvrir déjà un peu pour avoir quelques questions, réactions, puisque c'est aussi avec vous qu'on veut avoir un échange. Marie serait très contente d'avoir de vos commentaires ou des questions sur son œuvre. Sinon, moi, je vais poursuivre. Est-ce que vous avez quelqu'un? Je sais que... Marie-Pascal.
À quel auteur pensez-vous? Vous avez dit tout à l'heure, il y a de la réalité. J'aimerais peut-être
Ah, vous voulez avoir des noms?
Vous avez de méchant un peu. Moi, est-ce que je peux faire une parenthèse avant qu'il réponde? Le début du texte, je me suis dit, est-ce qu'il va nommer quel est l'auteur et le titre du bouquin? Parce que tout le monde lit le même.
Ah, oui,
moi,
oui.
J'en avais un dans la tête, je ne le dirais pas, c'est trop méchant. Mais...
non, ici, ce n'est pas de faire le procès de quelqu'un, mais je peux peut-être vous lire un passage qui D'accord. définit un peu mieux ça.
Okay.
C'est ça, je vais essayer de le retrouver.
Oh, je vais le dire, bon, le goût du bonheur.
Non, parce que c'est l'ouverture, en fait, le cauchemar du jeune écrivain, c'est que tout le monde lit le même livre. Et que finalement, lui, pour lui, c'est un cauchemar. Parce qu'il y a comme un seul livre à lire maintenant. Est-ce que je ne veux pas me tromper? Ah, voilà. Je suis contaminé. Comme l'acteur qui remercie God en recevant son Oscar. Comme le kamikaze qui se fait exploser au milieu d'une foule en hurlant le nom de son Dieu. Même rétrécissement, même confusion. Remercier God, tuer. Cela fatalement finit par se ressembler. Si la bêtise prolifère avec tant d'humour, d'amour, de consensus et d'argent, c'est qu'elle doit bien camoufler notre sentiment d'impuissance. Comment supporter le fait que des millions de gens meurent de faim alors que nous sommes en mesure de nourrir toute la planète? Comment supporter le fait que des millions de gens meurent du sida alors que nous savons que des médicaments existent pour les soigner? La bêtise. Elle est d'un grand secours. Et le divertissement, bien sûr. Nous serions constamment accablés si notre esprit n'était pas diverti. Aussi, nous demandons à nos artistes de le faire, aux producteurs de financer à coups de millions des moments de bonheur arrachés à la complexité de notre vie. Le cinéma ressemble à un jouet, l'humour remplace la politesse, le respect, la compassion et bientôt l'intelligence. Tuer avec humour, mourir avec humour, nous n'en sommes pas loin. Comme vous, je me complais dans l'exagération et n'arrive qu'à écrire des approximations qu'a exprimées de plates jérémiades. Ça devrait vous faire plaisir de constater qu'un écrivain bénéficiant d'une certaine notoriété patauge dans les résidus d'une pensée flasque. Je le répète, je suis contaminé, ce que j'écris aussi. Quant à la littérature, eh bien, si elle ne résiste pas au bonheur de la bêtise, elle sombrera. Elle subira une mutation irréversible. J'ai forgé un néologisme pour nommer cette nouvelle forme de littérature la littéréalité. Vous avez sans doute saisi l'analogie avec la télé-réalité. Cette dernière m'alarme, me déprime et me conforte dans l'idée que l'art est gravement malade et qu'on le confond de plus en plus avec les sols du printemps et le livre des records Guinness. La télé-réalité claironne la mort de l'artiste et son remplacement par la vedette spontanée, fabriquée, sur mesure, avec une économie remarquable. La vedette spontanée ne possède aucune compétence spécifique, doit ne rien faire, ne rien savoir. La vedette spontanée, si elle a une âme, la vend au plus vite. Si elle n'en a pas, c'est une étape de moins dans l'opération. La télé-réalité transforme en veau d'or le toc et la chair. La littéréalité possède un fonctionnement similaire. Elle subtilise à la pensée son œil, si j'ose écrire, et le remplace par une caméra de surveillance. La littéréalité ternit le prisme du mot, annulant sa capacité à donner des sens variés et, donc, à projeter un monde équivoque afin de proposer au lecteur un mode d'emploi simplifié de son existence ou encore, pour l'attirer avec moins d'efforts, une course à étapes procurant un plaisir hygiénique parce que basé avant tout sur le consensus. La littéréalité évite l'opacité et l'ambiguïté, enrobe le mal dans les voiles d'un drame où, à chaque page, on peut entendre les applaudissements de la société. Elle arrête l'interrogation dans son mouvement et les transforme en une statue de sel bien pensante, habile à débiter des histoires comme une machine sophistiquée vomit des kilomètres de saucisses. La littéréalité divertit sans contredit, mais elle est pur spectacle d'elle-même, ne renvoie à aucune fâche cachée, à aucun mystère, et réconforte l'homme blessé en lui cachant la gravité de son crime ou de son mal. La littéréalité est le royaume de l'ego extrême, et surtout, surtout, elle installe la bêtise sur un trône inatteignable. Comment a-t-elle pu réussir cette révolution ou plus platement ce tour de passe-passe? Réponse, le vécu. Alors voilà, ça raconte.
Oui, je pense que tu as bien fait de lire ce passage. Tu explicites davantage ce que tu entends par lui.
Vous savez qu'à travers cette fiction, j'exagère toujours, mais ça fait partie d'une façon de penser aussi, d'exagérer.
Oui, je pense aussi qu'il y a... Dans tes fictions, tes personnages sont souvent dans des situations où ils exacerbent ou bien leur mal, ou bien leur blessure, ou bien leur situation de désarroi. Je voudrais peut-être raccrocher à ça, parce que tu as fait un lien tantôt entre le corps et, disons, la lien que tu faisais entre le corps et une pensée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il me semble que c'est ça aussi qui me frappe quand je lis ou bien ton théâtre ou bien d'autres textes. C'est la place centrale qui occupe le corps. C'est un peu comme c'était là l'ancrage fondamental. Est-ce que pour toi, c'est lié au fait que tu es assez jeune, commencé à te former comme acteur, et cette conscience du corps, elle te vient justement d'une formation? Et ce qui me frappe aussi, c'est que beaucoup d'auteurs qui ont aussi été exposés à une autre discipline artistique, que ce soit la musique, l'art visuel, dans ton cas c'est le théâtre et le jeu. D'ailleurs, tu joues plus.
Non, mais j'ai un projet pour l'an prochain.
Ah! Mais là, ça m'intéresse.
Mais je ne peux pas en parler.
D'accord.
Je viens d'en parler.
Mais oui, mais c'est bien, c'est bien. Je me disais ça, je dis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Peut-être un solo?
Pas tout à fait.
OK. Mais revenons à la question du corps. Tiens, est-ce que c'est le corps qui a été premier, si je puis dire, ou bon, l'histoire de l'œuf et de la poule, si tu veux. Autrement dit, tu as été attiré très jeune par une forme d'expression qui est le jeu théâtral.
Mm-hmm.
Mais tu écrivais déjà, je pense, tu as commencé très jeune à écrire. Mais est-ce qu'il y a eu une conscience corporelle qui t'a guidé dans ton travail d'auteur?
Ben, en fait, c'est... Là, on rentre un petit peu dans l'autobiographie. Là.
T'as peur d'abuser.
Oui, c'est ça. Tomber dans le piège que je dénonce.
Non, mais c'est une question importante, parce que ça touche à la façon dont tu travailles.
Ben, je suis conscient que s'il y a un fil rouge qu'on peut détecter dans tout ce que je fais... que ce soit en poésie ou en opéra ou en théâtre, c'est le corps. C'est sûr que j'ai analysé un petit peu cette fascination que j'ai pour le corps, pour comment le corps s'exprime. Mais je me suis posé la question du katakali. À un moment donné, j'ai dit, est-ce que c'est le katakali qui m'a amené à écrire ce que j'écris? Et puis j'ai compris que non, parce que si j'ai passé 5-6 ans à faire du katakali comme un fou... C'est parce que j'avais déjà ça en moi. C'est-à-dire qu'en voyant en Inde, quand j'avais 20-21 ans, du katakali pour la première fois, j'ai été vraiment fasciné, happé par cette forme d'art où on voit un corps extrêmement, tu parlais de surconscience, une grande surconscience corporelle, une grande maîtrise. Et si ça m'a presque hypnotisé, c'est parce qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait ça. Parce qu'on ne peut pas, je pense, du jour au lendemain, tout abandonner et dire « bon, je fais du katakali, bonjour ». Ben, c'est ce que j'ai fait, et vraiment 10 heures par jour. Et il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas du tout préparé à faire ça, parce que je n'avais pas vraiment de corps. Je veux dire, quelques mois avant la première...
Comment tu n'avais pas...
Non, au sens que j'étais qu'une tête.
D'accord.
Non, mais on est dans la biographie, là. C'est parce que quelques mois avant l'Inde, j'étais en Europe, et puis un jour, j'ai pris conscience que j'avais pas de corps, c'était que parce que je lisais tout le temps, j'écrivais, jeune, là. Puis je faisais pas de sport, je faisais absolument rien.
Et tout dans la tête.
Tout dans la tête. Et puis, quelques mois plus tard, je suis en Inde. Et là, je suis tout l'inverse, tout dans le corps. Et il faut dire que ça a été les meilleures années de ma vie. Je veux dire, je me sentais bien, je me recentrais.
Et d'ailleurs, tu continues régulièrement de retourner en Inde.
Oui, j'y vais presque toutes les 2-3 ans. Katakali, tu vois, samedi dernier, j'ai fait un atelier toute la journée avec une troupe de théâtre. J'ai donné un atelier. Donc, c'est important pour moi de pas perdre cette richesse. Et encore là, c'est relié à ce que je disais tout à l'heure au début. La culture des autres, c'est formidable pour le jeune homme que j'étais de vivre dans un village indien qui s'appelle Cherutuluti, qui me rappelait Chicoutimi finalement, et que je vivais dans une bulle, c'est vrai, là, parce que c'était la mythologie, là. J'étais vraiment dans une sorte de mythologie où il y avait les conflits entre les dieux, les démons, enfin, c'est inspiré beaucoup de Mahabharata et Ramayana. Ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais, parce que j'étais plutôt, moi, orienté Europe dans mes lectures, ou Québec, mais l'Asie, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je n'avais rien lu sur l'Inde. Je ne savais pas quelle était la capitale de l'Inde, je pense. Ce rapport à l'Inde est très, très important, mais je ne l'ai pas vraiment... comment je peux dire, j'ai peu écrit sur l'Inde.
C'est un peu ton jardin secret en même temps.
Voilà. Ça fait pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai un accent corporel, accent indien corporel. Pour moi, c'est une richesse. Mmh. C'est sûr que ça a une influence dans l'écriture, parce que ça, je cherche toujours la densité ou l'économie dans la phrase. La précision, et bien évidemment, Katakali, c'est l'art du signe précis, c'est un langage des mains aussi, et c'est un rapport permanent entre l'œil et la main. Pour eux, c'est bien important que tout ce qu'on fait.
C'est comme une écriture aussi dans l'espace.
C'est tout à fait une écriture dans l'espace. Donc, je suis resté dans l'écriture, mais dans une autre dimension. Ça m'a fait réfléchir par le corps. Parce que c'est vraiment un entraînement, comment je pourrais dire, qui va en profondeur. C'est pas juste une heure par jour. Là, on commence à 4 heures le matin, il s'arrête pas, il fait chaud. Donc il y a une espèce de transformation qui se fait en vous et qui touche votre psychisme, finalement.
Je voudrais pas qu'on fasse de la psychanalyse facile, mais en même temps, justement, le fait que le corps soit central, inévitablement, c'est le siège de l'inconscient qui tout de suite est convoqué, mais pas d'une façon justement analytique. Ça me frappe quand je lis ce que tu écris. Il y a une sorte d'économie, comme tu dis, et on a une grande place, nous, les lecteurs, pour reconstruire... Les strates que tu laisses ouvertes finalement à notre perception. Donc on est très actif en te lisant. Est-ce qu'il y a une façon pour toi de, puisque tu es le premier lecteur comme tous les auteurs, est-ce que tu as une attention particulière à cette construction qui est souvent, il me semble, étagée ou astrate?
Le mot qui me vient, c'est ludique. Là, j'essaie d'avoir une écriture ludique, c'est-à-dire qui ne se prend pas trop au sérieux, même si parfois je veux dire des choses sérieuses, mais à un moment donné, j'ai même développé une approche de jeu que j'appelle anatomie ludique. Alors le mot ludique, je l'ai donc marié avec l'anatomie. C'est encore là une façon pour moi de voyager dans le corps. Et quand je dirige des acteurs, je fais aussi la même chose, parce que je me suis aperçu que si on joue toujours à partir du même endroit, ça crée une monotonie, évidemment, et ça empêche l'acteur d'aller vers l'autre, c'est-à-dire vers le personnage. Un exemple très simple, si un acteur ne dépasse pas la mémorisation de son texte, ben, il va jouer à partir du lieu de sa mémorisation, alors ça fait souvent comme ça. Et si un acteur est très bassin et qui joue toujours bassin, ben, il va toujours jouer un peu. Et puis il y a aussi des façons culturelles de jouer. En France, on joue plus comme ça. Au Québec, on est plus ici, etc. Donc il y a une corporéité dans la façon de jouer aussi. Alors moi, j'ai créé des exercices qui permettent de déplacer les centres d'énergie et les centres imaginaires pour que le texte soit décoché d'endroits différents et qu'il y ait une espèce de fluidité aussi énergétique. J'ai passé beaucoup d'années à travailler là-dessus.
Ça me permet de quand même signaler que tu as publié un recueil de textes de réflexion sur le théâtre, dont le titre est « Le crâne des théâtres ». Oui. Le titre est très beau.
C'est pas de moi, c'est de Federico Lorca.
Mais le sous-titre aussi est très intéressant, il va dans le sens de ce que tu viens de dire. Essai sur les corps de l'acteur. Mm-hmm. Et ce pluriel-là m'intrigue et je pense que ça mériterait, toujours dans le droit fil de notre discussion sur la présence du corps dans l'écriture, dans le jeu et tout ça. Mais les corps de l'acteur, mais les corps de l'auteur aussi, non?
Oui, aussi, bien sûr. Non, mais parce qu'en fait... J'ai fait aussi des expériences là-dessus. J'ai essayé de pas d'utiliser, mais de conscientiser le fait que Il y a, surtout au Québec, il y a quand même beaucoup d'auteurs dramatiques qui sont ou qui ont été des acteurs. Et il y a sûrement un pont dans le fait qu'ils ont cette facilité d'aller dans l'autre et puis donc d'en écrire aussi. Et je me suis aperçu que c'est très physiologique, c'est très physique. J'ai fait des expériences. J'ai, par exemple, le texte Les Mains Bleues, je l'ai écrit à partir d'une motte de glaise. C'est-à-dire que, la motte de glaise, je l'ai mis en moi d'une façon par l'imaginaire. Non. Mais au départ, elle existait, elle était dans un entrepôt. C'est une compagnie qui m'avait fait une commande. Et ils m'ont amené dans un entrepôt, il y avait une grosse motte de glaise. Et puis, donc, je pouvais la sentir, la toucher, la battre, lui donner des claques. Donc, par l'imaginaire, je l'ai mis en moi. Et j'ai commencé à écrire avec ça, et ça a donné Les Mains Bleues. Parce que la glaise est une matière froide, gluante, et ça m'a amené à un personnage violenté. C'est un jeune Jérémy qui vit dans la rue et qui est né avec une malformation. Et je me sentais que j'étais dans les bas-fonds avec ça. C'est sûr que si j'avais commencé avec du bronze ou du diamant ou de la crème glacée, je serais allé ailleurs. Mais j'y crois à ça parce que je dirige les acteurs aussi de cette façon. À partir de j'ai beaucoup aimé les textes de Gaston Bachelard parce qu'il écrit la psychanalyse du feu, de l'eau et les rêves, tout ce qui est matière. Et ce que j'ai fait dans mon approche du corps, du théâtre, c'est de placer cette matière dans le corps et de la rendre vivante, de la rendre fluide. Et donc, au lieu de commencer par la psychologie, donc par l'émotion, je commence par un ancrage dans le corps, mais il faut d'abord faire un choix où dans le corps. Et qu'est-ce que tu mets dans le corps? Et à ce moment-là, je travaille la matière. Et après, c'est la psychologie qui vient, mais elle ne vient pas en premier. Mm-hmm. Donc, c'est une approche très, très corporelle.
Ben, c'est même aussi, jusqu'à un certain point, carrément anti-psychologique. Pas toujours. Il y a des textes qui par exemple,
Leçon d'anatomie.
Leçon d'anatomie, peut-être un texte plus traditionnel, si tu veux.
C'est un de mes des premiers. Mais là encore, c'est assez surprenant. Ce qui m'a le plus surpris le soir de la première, c'est que les gens ont beaucoup ri. Comme j'étais un jeune auteur, je ne savais pas qu'on allait rire avec cette pièce, parce que c'est quand même pas une pièce drôle. Mais c'est là où je me suis aperçu que j'étais très ironique,
c'est vrai.
Surtout dans ce texte-là. Et l'ironie.
Mais elle, le personnage,
oui,
l'est.
Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai mis de l'ironie dans le personnage. Et l'ironie, finalement, si c'est très bien incarné par une très, très bonne comédienne.
Oui, c'est vrai, c'est loin d'être drôle a priori, puisque Martha, c'est ça, est atteinte d'un cancer, ou en tout cas. Puis on peut penser qu'elle a somatisé à cause d'une relation plus ou moins.
Malsaine avec son mari.
Malsaine avec son mari, qu'elle nous raconte d'ailleurs avec une sorte de joie.
Un peu sadique, peut-être.
Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait réconfortant.
Oui. J'étais surpris. Et puis, l'autre chose qui m'a surpris après, c'est que la critique m'a pratiquement accusé d'être féministe. Après.
C'est un jour qui était fréquent à une époque.
Mais c'est parce que je ne voulais pas écrire une pièce féministe.
Non, je sais bien.
Mais c'est parce que si ça avait été mon propos, je l'aurais dit. Oui, j'ai écrit une pièce féministe, mais je vais écrire une pièce sur une femme.
C'est pas parce qu'Hélène Loisel y mettait un tel mordant, puisque c'est elle qui a créé le rôle. C'est toi qui as dirigé.
Non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est pas que. C'est juste que je vois que quand on crée quelque chose, on ne sait jamais comment ça va être reçu. C'est toujours une surprise.
Ouais.
Et surtout pour un jeune auteur sans expérience, on est encore plus surpris.
Ouais.
Ça m'a amusé aussi. Mais après ça, j'ai vu d'autres productions de la même pièce. Et je vois bien que un texte résonne avec son époque. Et le même texte va résonner différemment 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard ou dans une autre ville.
Parlant aussi d'altérité, puisqu'on a commencé avec ça, quand tu vois une mise en scène dans une autre langue que le français dans tes textes, qu'est-ce que ça a comme effet sur toi?
La première fois que ça s'est produit, c'était à Mexico, c'était justement avec la leçon d'anatomie, ça fait peut-être une dizaine d'années. C'est sûr que pour nous, c'est un cadeau. Et ensuite, tu dis, c'est quoi la différence? Alors là, ton oreille, tu vois bien que c'est pas la même musique. Tu dis, en espagnol, c'est plus passionné, on dirait. Tu dis, ça fait plus passionné. En anglais, ça fait un petit peu plus réservé. En fait, tu vois, c'est... En allemand, ça faisait vraiment intellectuel.
Ah oui?
Oui, et très...
Ça, c'est pas un préjugé. Ben,
non, mais je trouvais
que... Teuton, là?
Non, ça faisait très... je vais aller me suicider. mais bon, mais ça, c'est peut-être le metteur en scène qui l'a...
Ouais.
D'ailleurs, c'était pas une mise en scène, c'était une lecture en Allemagne.
Ouais.
J'ai eu l'audace de le dire au metteur en scène, il n'était pas très content. Non.
Ça fait partie de ton ironie, ça.
Ouais.
Bon, alors, je vous écoute à nouveau, puisque tout le monde... Ah, monsieur, allez-y.
Non, vous disiez tout à l'heure que vous sentiez devenir bête. Il y a eu une émission à la télé, faite par les Japonais, par NHK, montrant des centenaires. Et on sait qu'en vieillissant, on a des hippocampes dans le cerveau qui rétrécissent.
Ouais.
Et étonnamment, chez ces gens de 98 ans, son hippocampe était encore largement, est encore dans une dimension au-delà de toute ressemblance avec un homme de cet âge-là. Et parce que justement, il s'est livré constamment à de nouveaux défis intellectuels.
Ah ben, je pense
on
que
pensait
je...
que le cerveau, mais c'est, le corps, c'est la même chose.
Ouais.
On s'arrachit évidemment si on ne le met pas constamment au pieu et de dire tu vas aller plus loin que la paresse normale.
Ouais. Ah non, je suis bien d'accord avec vous. Il faut s'allumer, il faut surtout être curieux encore aussi. Bah, comme prof, moi j'ai la chance de toujours être avec des jeunes et évidemment, tu n'as pas le choix d'être curieux puis de partager une forme d'énergie avec eux aussi.
Et on aimerait le croire, mais il y a beaucoup de profs qui ont démissionné aussi.
Ah ben, ça c'est plutôt triste, mais l'enseignement, c'est quand même, c'est très physique enseigner. Il faut être en forme,
oui.
C'est très physique.
C'est vrai. Non, mais je parle plutôt du système scolaire, du primaire et du secondaire, là, qui c'est souvent tout à fait catastrophique. Bien. Quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Thomas. Oui, Thomas, je t'entends.
Je vois.
Non, mais non, mais c'est ce qui m'étonne. D'accord. Est-ce que c'est à ce point intimidant? Pourtant, là, maintenant, vous devriez connaître le personnage. Il est tout à fait affable. Oui.
Ben, je pense que ça dépend de ce qu'on... C'est quoi son objectif quand on... Et si vous prenez à la recherche du temps perdu, c'est un exemple très, très, très connu. Tout le monde, dit que c'est un roman à clé. Marcel Proust parle de lui, parle des gens qu'il a connus. Mais c'est un tel travail d'élaboration, de construction, de pensée qui s'avale elle-même, qui se retourne comme un gant, qui revient, que je pense qu'il a décrit une époque, une façon d'être. Il a en même temps parlé de ses désirs de façon codée, mais c'est inépuisable. Quelqu'un qui fait son autobiographie, ça peut donner le même résultat, mais s'il le fait, ça dépend, c'est quoi son rapport au monde et à lui-même. S'il le fait dans un pur but narcissique, je ne sais pas si ça va donner de bons résultats. Dans le fond, c'est la flèche qui traverse l'œuvre au moment où on l'a fait qui est importante. Et si on conçoit cela comme un pur produit de soi-même, ben, je doute que ça fasse une œuvre intéressante. Je trouve que souvent, maintenant, l'écrivain devient le produit dérivé de son œuvre.
Mmh.
Alors que c'est l'œuvre...
C'est bien dit, d'ailleurs, dans
ton texte. Ouais, qui doit être déjà... Enfin, c'est l'œuvre qui est importante.
Mais c'est encore là, toutes les médias dits de masse qui accréditent de plus en plus cette façon de faire de l'écrivain d'abord une vedette avant d'inciter à la lecture, si je puis dire. Hein, c'est vraiment le monde à l'envers. Oui, Yves.
Je suis frappé que dans le texte dont tu nous as lu des extraits tout à l'heure, il y a la même situation qu'on retrouve un peu dans la hache, où il y a dans la hache, il n'y a pas de dialogue, mais il y a une interpellation, il y a un faux dialogue qui met en scène un jeune et un vieux. fait deux générations. Et je me demande si le problème que tu soulèves n'est pas aussi, d'une certaine façon, un problème de génération. Toi qui es prof, toi qui es enseignant, tu es confronté avec des générations qui se succèdent, qui se suivent dans tes classes. Est-ce que le problème s'aggrave? Et dans quelle mesure c'est un problème qui transcende les époques, ou est-ce que c'est vraiment un problème qui repose les générations aujourd'hui?
Oui, j'y ai pensé aussi. D'ailleurs, ce texte-là, je l'ai écrit en parallèle à la hache, donc ils sont peut-être co-substantiels. Là. Enfin, ils s'auto-vampirisent, là, et c'est voulu, parce que j'aimais ça, ce tressage enfin, entre la hache et ça. Et donc, j'ai même utilisé un passage de ça dans le programme de la hache.
Est-ce que le jeune écrivain donne la réplique plus âgée ici?
Je vais le faire. J'ai déjà un plan. Je veux continuer à écrire. Je vais faire parler le jeune dans un prochain chapitre, parce que là, enfin, au départ, je ne le savais pas, mais là, je me suis dit que lui, il voudrait bien parler et parler de sa génération aussi. Sauf que, évidemment, il faut que j'invente ce personnage. Absolument.
Oui.
Oui. Mais l'autre aspect de ta question, c'est sûr qu'il y a une problématique générationnelle très très importante. Et c'est pourquoi j'ai utilisé la fiction, parce que je pense que je n'ai pas assez réfléchi là-dessus pour parler d'une façon qu'on dit objective. Parce que je suis sûr qu'il y a toujours ce problème de ce regard entre une génération plus âgée et l'autre, où la plus âgée dit. Mais où va l'art? Où va la littérature?
C'est pas comme dans mon temps.
Il y a ce phénomène-là qui est. Et je ne suis pas encore assez bête pour ne pas y penser. J'y ai pensé.
Pas assez contaminé encore.
Non, peut-être dans quelques années, je serai assez contaminé pour l'oublier. Non, j'ai pensé, mais j'aimerais pouvoir écrire d'une façon plus objective là-dessus, mais je ne me sens pas assez compétent encore pour le faire. Mais je pense plus en forme de pièce de théâtre, et peut-être que ce sera une prochaine pièce de théâtre. Oui.
Oui, en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de tout mettre, soi-disant, une même génération dans le même sac. Parce qu'il y a une grande diversité, ouais, au sein même de ce qu'on appelle une génération. Et souvent, je trouve abusif les baby boomers, c'est comme si c'était un bloc monolithique, et puis comme ça, qui Moi, j'avoue que ça fait quand même 35 ans que j'enseigne. J'ai vu des cycles d'étudiants. C'est-à-dire, eux, ils gardent toujours le même âge. C'est moi qui vieillis, n'est-ce pas? Chaque année, ils ont toujours à peu près 20 ans, 22 ans. Bon.
C'est ce que je disais tout à l'heure aussi.
mais en revanche, c'est ça. J'ai connu des périodes de. C'est à peu près 5 ans, une génération d'étudiants, c'est curieux. Là, aux 5 ans, ça change. Là, présentement, je trouve ça merveilleux. Peut-être moi aussi. Bien, monsieur.
On a l'impression que vos pièces naissent plutôt d'un problème qui se présente à vous que venant du corps, d'une impression, d'un émerveillement, d'un choc physique. Là, vous êtes c'est posé un problème comme celui-là. Et est-ce qu'il y a des pièces, je ne sais pas, je n'ai pas oublié votre théâtre, est-ce qu'il y a une partie de votre théâtre où il y a du théâtre qui naît d'un choc, par exemple, parce que vous parlez de la danse, évidemment, éminemment physique. Là. Est-ce que, justement, ces œuvres-là naissent, il y a certaines de ces œuvres qui naissent, justement, d'un plaisir ou d'une douleur ou d'une souffrance qui vient du corps et non pas de la tête, d'un problème qui vient de la tête?
Ben, d'abord, je n'écris pas des pièces à partir de problèmes, jamais. Je suis contre les problem plays. Enfin, je ne sais pas que je suis contre, mais je ne suis pas capable d'écrire à partir d'une thématique ou d'un problème. Donc,
c'est pas comme ça que ça se présente.
Non, jamais. Non. Les premières pièces, c'était souvent... les premières décennies où j'ai écrit, c'était basé sur le non-savoir. Il ne fallait pas que je sache. Alors, j'écrivais à partir de rien. Et c'est souvent la première phrase qui m'amenait ailleurs.
Un peu d'écriture automatique.
Oui, un premier personnage, et puis c'était au niveau de l'oreille, si ça sonnait, j'allais continuer. Maintenant, c'est un petit peu c'est plus différent. Je peux avoir envie de parler de plusieurs choses en même temps. Il y a une qui va émerger, mais ce n'est pas nécessairement un problème particulier. Et ce n'est surtout pas un thème. À la dernière pièce, l'Abraham Lincoln va au théâtre. Et je ne peux pas vous dire s'il y a un thème là-dedans. Il y a tellement de choses que c'est très difficile. Parce qu'en fait, je dis, je voulais écrire une tragédie avec les moyens de la comédie. Ensuite, je dis non, je voulais écrire sur la schizophrénie de l'Amérique. Mais l'Amérique, c'est vaste. Et il faut savoir ce qu'on entend par Amérique, parce que l'Amérique, c'est ici aussi. Schizophrénie, oui, mais quoi? Est-ce que c'est la vraie schizophrénie ou c'est une métaphore? Avec, vous voyez, c'est jamais simple. Et c'est jamais là où on pense que c'est aussi. Alors, en général, les gens qui voient mes pièces, ils sont souvent... ils savent pas trop...
Perplexes.
Étonnés. Et ça leur prend un certain temps avant de dire « Ah! » Ouais. Et puis, on ne peut pas digérer la pièce sur place. Ça prend quelques jours pour... mais c'est ce que je recherche.
L'effet est à retardement. Hein,
c'est ça. Et puis, je ne veux pas que... Dans toutes les pièces que j'écris, j'espère qu'il y ait toujours un centre noir dans mes pièces. C'est-à-dire un endroit où personne ne peut aller. Une opacité. Et même moi, je ne peux pas aller là. Ce qui fait que c'est un texte qui résiste à multiples interprétations ou à des réductions. Et c'est ça qui est difficile, d'écrire une œuvre qui résiste au regard, qui résiste à l'appropriation, à l'adaptation, et qui est toujours là, et qui résiste même à son auteur. Et c'est pas facile, parce qu'il faut se permettre de pas savoir, il faut se permettre de se faire confiance aussi, et de voyager, en fait, de voyager dans sa pensée. Donc on revient à ce que je disais au départ, là, sur la fixité, le fanatisme... Et le fait que on est plusieurs en soi-même, il y a de la distance, ou du moins on peut en créer de la distance, ce qui nous permet de voir l'autre en soi aussi. Mmh. Alors, comme vous n'avez pas vu les pièces, alors, peut-être c'est ma façon de parler quand Yves a posé la question, mais je ne me reconnais pas du tout dans les pièces à problème.
Est-ce que c'est la première fois que tu utilises l'expression « centre noir » pour désigner cette zone un peu... Bon, à la fois mystérieuse, mais nécessaire.
Je ne sais pas, souvent je parle d'opacité, un centre...
Mais j'aime bien l'expression, c'est pour ça que je l'ai noté, mm-hmm. Je la relance.
Ben,
Ça me semble, en tout cas, assez juste pour désigner, en tout cas, moi, comme lecteur, ce que je reçois, c'est que j'aime bien que les œuvres qui ne disent pas tout. Mm. Et qui laisse une part d'opacité, comme tu dis. Mais il ne faut pas que cette opacité-là soit gratuite, tu veux
non,
dire.
Non, à ce moment-là, ça devient de l'hermétisme. Voilà. Si l'opacité est ostentatoire ou finalement factice, ben c'est une sorte d'hermétisme. Et là,
maniérisme aussi.
Ouais, l'auteur s'enferme dans une sorte d'igloo. Puis voilà.
Igloo.
Oui, c'était pour aller chercher une opposition avec le noir de tout à l'heure.
Ah, d'accord.
Ça fonctionne comme ça.
Mais vous voyez comment il fonctionne, hein? C'est comme ça, il faut lire ces œuvres comme ça, avec les connexions, les connecteurs qui nous font rebondir. Hein? Et pour témoigner de ma lecture, puisque j'ai eu à relire plusieurs fois Le Ventriloque pour faire la préface et m'imbiber de l'œuvre avant d'écrire, mais j'étais fasciné à chaque fois, j'étais complètement... On ne peut pas prévoir le déroulement de cette pièce-là, et on est sûr... Enfin, je ne l'ai jamais vu jouer, là, j'ai hâte de l'avoir en représentation, mais à la simple lecture, c'est passionnant. On est rivé au déroulement, il y a un effet de suspense constant, et on ne peut pas prévoir comment ça va se terminer, encore moins... Même toutes les péripéties, Dieu sait qu'il y en a quelques-unes.
Disons que c'est une pièce qui, si on veut essayer de... C'est un peu un labyrinthe, mais si on veut s'en sortir, c'est de commencer par la fin. Mais il faut d'abord toute la lire, puis ensuite réfléchir à partir de la fin et rétrospectivement revenir au début. Sauf que toutes les clés de la pièce se retrouvent dans le petit lever de rideau qui dure 10 minutes. Sauf que le lecteur ou le spectateur ne le sait pas, que les clés sont dans le lever de rideau.
Au départ.
Au départ, il ne le sait pas, non. Donc, c'est assez facétieux.
Bien. Oui, monsieur.
J'ai lu récemment que pour écrire, il était préférable de constamment se nourrir de la lecture d'autres auteurs. Vous, personnellement, est-ce que quels sont les auteurs que vous aimez lire? Est-ce que vous continuez à
vous... Oui, je lis tous les jours. Mm-hmm. Oui.
Quels sont les auteurs que vous
aimez? Récemment. Ça, qu'est-ce que je lis présentement? Je lis, je suis en train de terminer « Comment devenir un monstre ». Ça me concerne, sans doute. J'en barbe. J'ai lu le dernier livre de Sylvain Trudel.
Donc, tu lis de la fiction?
Oui, je lis beaucoup. Oui, puis
parce que tantôt, tu avais l'air de nous dire que là, pour pouvoir être paresseux, il fallait lire beaucoup de trucs très sérieux.
Non, je lis des pièces de théâtre.
Tu lis du théâtre aussi?
Ben, j'en lis pas mal, oui. Ah. Oui. J'ai lu deux pièces de M. Pic, Jean-Yves Pic.
Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est très ludique. Non, mais je lis aussi beaucoup de pièces de théâtre écrites par, enfin, qui sont manuscrites parce que je dirige beaucoup d'étudiants en écriture, alors j'en lis pour toutes les semaines. Oui.
Plus de questions. Parce que moi, je ne vous connais pas tellement, je vous connais un peu ce soir, mais en tant que. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous lire. Mais si vous aviez à me suggérer une lecture d'un livre que vous aviez.
C'est simple tout.
lisez le dernier, on dit toujours ça, lisez Piercing.
Oui, le recueil de récits là, qui vient de paraître, que vous allez trouver ici. Voilà.
Ouais. Et, tu sais, j'avais pensé lire, vu que demain c'est l'Halloween, j'avais pensé lire
un
texte qui sera peut-être un futur roman ou récit. En fait, pour l'instant, ça n'a pas de forme, c'est un jet.
C'est un premier jet.
Puis je me disais que ça allait avec le fait que c'est l'Halloween, et c'est pas quelque chose pour l'instant qui a un objectif précis. Donc c'est
un texte en travail.
Là. Oui, et qui finalement qui génère chez moi beaucoup plus de perplexité encore que d'autres choses.
Mais d'habitude, la perplexité est plutôt un moteur dans ton film.
Oui, c'est faux, je m'étonne moi-même, mais sinon je m'ennuie.
Ben oui, peut-être qu'on pourrait t'entendre lire un extrait de ce qui deviendra peut-être ou bien un roman ou bien un récit, comme tu dis, ou peut-être une pièce, qui sait.
Oui, en fait, j'ai appelé ça les Tintinbaca. C'est donc un mot que j'ai forgé, et c'est un royaume, c'est le royaume des Tintinbaca, et je n'ai aucune idée où c'est. Que peut-être qu'en écrivant, je le saurai un jour. C'est plutôt, pour l'instant, loufoque.
D'accord.
Au royaume des Tintinbaca, la venue de la nuit est le moment le plus pénible. Ce n'est pas que la nuit soit noire. Ce n'est pas que la nuit soit le royaume de vampires grotesques suçant le sang de fêtards avinés. Non. Au moment où le soleil bouffi disparaît derrière les arbres affamés de la forêt de Canette, au moment où, dans les maisons sales et humides des quartiers bas de la capitale, les familles retiennent leur souffle, une question se forme sur toutes les lèvres. Va-t-elle le faire? La reine Catherine McDrive va-t-elle enfin sombrer dans le sommeil et laisser un peu de paix à son royaume? Car depuis maintenant 13 ans, la reine souffre d'insomnie, et son royaume aussi. Le visage de la reine Catherine McDrive est encore plus froissé que les billets de 50 schwups où son royal portrait a été gravé. Autour de ses yeux se tiennent, serrés comme des chiens angoissés, des bracelets de rides, de croûtes jaunes, plis de tristesse que la goutte noire de ses prunelles n'arrive pas à humecter. Dans la grande salle aux voûtes noircies par les bougies fatiguées, les courtisans se scrutent. Si la reine ne s'endort pas, sur qui cette fois-ci sa colère légendaire va-t-elle s'abattre? La veille, la reine a interdit le sommeil aux enfants de la noblesse âgés de 7 ans et moins. Depuis, c'est la panique dans les familles de comtes et de ducs. Plus personne ne dort, plus personne ne mange. Les enfants, excités comme des puces de cirque, ne vont plus à l'école. Les mères sombrent dans la dépression, les pères dans l'alcool. Le chômage, on le comprend, est à la hausse, les trains sont en retard. Ce soir, samedi, toutes les télévisions retransmettent le coucher de la reine. Des millions de sujets espèrent la voir s'endormir à la télé. Si ce miracle se produisait, il pourrait enfin sombrer comme des épaves heureuses dans le sommeil. Oui, voilà 13 nuits d'affilée que la reine n'a pas daigné fermer ses paupières. Venez. 13 nuits d'affilée, un record. Dans tout le royaume, la léthargie malmène l'économie, l'art, l'éducation. Même la température se laisse aller. S'il pleut, il pleut des trombes, laissant des lacs instantanés au sol. S'il neige, le royaume se réveille engourdi, paralysé, momifié. Et si le soleil fait son entrée, comme un affamé pressé, il brûle ce qu'il devait réchauffer. Et les hôpitaux, franchement, il vaut mieux mourir chez soi que de crever dans des corridors bondés. Les médecins se trompent de patients, les infirmières s'endorment sur les tables d'opération, les malades sont opérés sans anesthésie afin qu'ils demeurent éveillés. Personne, mais personne ne peut goûter aux douceurs du sommeil si la reine Catherine McDry n'a pas terrassé son insomnie. Il est bientôt minuit. L'émission spéciale du coucher de la reine est sur le point de débuter. Belle Goose anime l'émission. Personne ne peut rivaliser avec lui. C'est Belle Goose qu'on est allé chercher pour commenter la catastrophe du village de Ploufry. Le village de Ploufry, on s'en souvient heureusement encore, était célèbre dans tout le royaume pour son festival d'avaleurs de binouches, populaire petit pain fourré à la langue de porc. Le record absolu d'avaleurs de binouches appartient à Blanche Capchoul, employée du service des égouts municipaux, qui s'en est envoyée derrière la glotte plus de 75 en 7 minutes. Mais ces détails semblent bien cocasses, charmants et nostalgiques quand on sait que le village de Ploufry a été depuis anéanti avec Blanche Capchoul, sa téméraire avaleuse de binouches. Oui, aplati par un météore qui s'est abattu sur lui il y a 2 ans. Et c'est Belle Goose qui a annoncé en primeur à la télé la catastrophe. Sans images, car il n'y avait plus rien à montrer. La voix faussement rocailleuse de Belle Goose s'est stockée dans la mémoire auditive de toute une population sous le choc de la nouvelle. Ploufry et ses habitants avaient disparu de la carte. La voix de Belle Goose depuis résonne comme l'écho du destin. Mais cette notoriété n'empêche pas l'animateur vedette de faire le bouffon et la putain de bon goût. Belle Goose abîme un quiz les lundis et mercredis, un talk show tous les soirs de la semaine, une rétrospective des meilleurs films le week-end, une émission débat sur la littérature et les nombreux festivals du royaume le dimanche, en début de soirée. Il a ainsi reçu en studio Blanche Capchoul et ses binouches à la langue de porc. Il faut aussi mentionner son émission de cuisine en compagnie de vedettes adulées du public où, en direct, il mijote des plats raffinés dont il vend en brochure les recettes dans les supermarchés. Quoi de plus naturel alors d'avoir retenu ses services pour vivre avec la population du royaume des Tintinbaca ce moment crucial, le coucher de la reine insomniaque. Voilà, il est encore bientôt minuit. Les caméras de télé sont installées dans la chambre royale. La reine a pris sa tisane de camomille thaïlandaise. Le médecin du palais lui a appliqué une patch supposée lui dissimuler dans le sang un puissant soporifique. De plus, la reine a été massée une grande partie de la journée par Pip Artoise, venue spécialement des confins du royaume. Pip Artoise travaille dans un zoo. Ses mains expertes calment les animaux paranoïaques, dépressifs, suicidaires. Et pour finir, un chœur composé d'hommes, castrés pour l'occasion, ont chanté toute la journée. C'est peu dire que tous espèrent que la reine s'assoupisse et dorme, plongeant du même coup son royaume dans le baume du sommeil. C'est peu dire aussi que cette heure décisive de la nuit, la tension est palpable, que le moindre bruit explose comme une grenade, que le moindre effort exige de puiser dans des ressources de plus en plus rares, que respirer semble appartenir au domaine du sport plutôt qu'à celui des réflexes que la vie a légué à l'homme à sa naissance. La voici. La caméra nous la montre franchissant le seuil de sa chambre royale. Aussitôt, le silence s'impose. Dans les foyers du royaume des Tintinbaca, seul le grésillement des ondes emplit l'air humide de cette nuit d'automne. La reine a depuis longtemps permis à ses sujets de l'admirer sous tous ses angles. Elle sourit d'aise à la pensée que son image vacille comme un pétale dans la pupille de ses sujets. Un pétale d'or au fond d'un puits où, paraît-il, se cacherait la vérité. Coquette, la reine, elle aurait voulu être une artiste. Cependant, vu la tête que ses dignes épaules ont héritée, vu la responsabilité transmise depuis des siècles par ses illustres ancêtres, la reine Catherine McDry a banni de son cœur ses aspirations artistiques pour se consacrer froidement à son règne. Mais qu'est-ce donc que régner? Cette question, la jeune princesse se l'est posée il y a maintenant plus d'un demi-siècle quand, étouffée sous une robe de velours, encombrée de sceptres, de rivières de diamants, de flashs d'appareils photo, elle s'est enfoncée jusqu'au cou dans la royauté, en acceptant la couronne au son des tambours et des trompettes du destin. Oui, qu'est-ce donc que régner ? Eh bien, la reine n'a pas trouvé de réponse satisfaisante. Bien sûr, concrètement, ce sont d'innombrables petites tâches ennuyantes embrochées sur le doigt majestueux de la respectabilité. Toutefois, avec le temps, la reine s'est forgée une formule. Un jour sur deux, régner, c'est se faire chier. Et l'autre jour, si on a de la chance, c'est faire chier. C'est la petite formule qu'aime bien se répéter la reine Catherine McDry quand son corsage lui pique ce qui lui reste de poitrine. Car la reine a beaucoup vieilli. Beaucoup. La reine n'est plus qu'un paquet de courbatures, de rhumatismes, de bagues, d'ongles sales, de cheveux mille fois teints, déteints, retints, de dents maquillées et vissées, dans des gencives en lambeaux, d'odeurs souterraines mais cinglantes, de gloupes et de froutes, échappées d'orifices relâchés, attirant la joie débridée des chiens de sa cour, mais commandant un nez stoïque jusqu'à l'aveuglement de la part de son entourage. La reine s'est maintenant approchée de son lit. Belle Gousse, dont on aperçoit en médaillon dans le coin gauche de l'écran, le visage bouffi par l'alcool, mais harmonieusement poudré, commente l'événement historique. La reine Catherine McDry se dirige à présent vers son lit. Imposante chose que ce lit. Toute la lignée des McDry en est sortie comme les lapins d'un chapeau de magicien. Car, téléspectateurs attentifs, ce lit n'est pas qu'un amas de ressorts recouverts de satin. C'est la plaque commémorative de notre pays. Plaque sensible, odorante, morceau de mémoire et d'histoire, imprégné des secrets les plus essentiels de notre vie collective. Ah ! La reine vient de s'immobiliser. Elle tourne la tête vers la caméra. Que se passe-t-il ? Veut-elle prendre la parole ? Elle sourit. Non, c'est un tic dû à des réflexes faciaux dont la reine souffre depuis belle lurette. Sa fille, Rita Molson McDry, lui prend le bras et la conduit jusqu'à son lit. L'émotion est à son comble. Rita Molson McDry semble, malgré cette période difficile, en pleine forme, toujours élégante, un air de santé qui respire la savonnette et le jogging matinal. Cette femme, décidément, ne fait pas ses 40 ans. On sait que son mari, le premier ministre Pin Pilsener, revient d'une cure d'amaigrissement qui a échoué. Nous en reparlerons, soyez-en assurés. Rita Molson McDry aide maintenant la reine à se défaire de son imposante robe de chambre, chose tout en paillettes désuètes, d'où émerge, brodé, l'animal emblématique du royaume, l'aigle gris de la forêt de Canette, fendant l'air avec, dans ses griffes, un rat, une souris, un gros cancrelat, un hamster, on n'a jamais vraiment su. Les experts ne s'entendent pas sur l'identification de cette petite proie censée représenter l'ennemi héréditaire. Des hérétiques ou des mauvaises langues ont laissé courir le bruit que l'aigle gris s'était emparé d'une langue de porc, plat national par excellence. Mais laissons cela. La reine vient de s'asseoir sur le bord de son lit. L'assemblée, nombreuse autour d'elle, retient son souffle. La reine apparaît légèrement étourdie, sans doute la chaleur avec tous ses projecteurs. A-t-elle un malaise ? La reine extirpe difficilement de sa robe de nuit quelque chose. Sa main tremble. Ah, c'est un mouchoir. La reine se mouche. Voilà, c'est fait. Un homme très digne, habillé de noir, s'empare du mouchoir. La reine indique vouloir maintenant s'étendre. Deux jeunes femmes s'emparent délicatement, mais avec une grande expertise, des bras de la reine et l'aident à se coucher. Elle semble se rebiffer. Ah, mais non, elle consent. La reine est, c'est incroyable, couchée. Magnifique moment. Moment historique. J'en oublie ma fatigue. La reine a consenti à s'étendre dans son lit, chose qu'elle avait refusé de faire depuis 13 nuits consécutives. C'est une étape. Nous le savons tous. Rien n'est encore gagné. Elle doit s'endormir, puis dormir. Le docteur Brasseur, expert en sommeil, se tient à présent près d'elle. Comme vous le savez, le docteur Brasseur anime tous les mardis matins « Maux de tête et citron », qui fait un véritable tabac sur la quatrième chaîne. C'est un collègue pour qui j'ai un profond respect. Voilà. Le docteur Brasseur se penche sur le corps allongé de Sa Majesté. De même mouvement, les gens réunis autour du lit en font autant, créant un tableau d'une grande force dramatique. Une caméra au plafond nous permet d'avoir une vue imprenable sur le visage de la reine. Oui, c'est confirmé, la reine a les deux yeux fermés. Les deux,
Observez bien. Quelle soirée historique nous vivons! Il semble que le royaume va retrouver son rythme normal, ses joies et ses peines, la routine tant souhaitée, tant nécessaire à l'équilibre de notre économie et de notre rayonnement dans le monde. Et ces petits bonheurs et ces grands malheurs qui nous poursuivent comme notre ombre vont enfin retrouver leur place à nos côtés. Ah! Le docteur Brasseur se redresse. Il regarde sa montre. Il exhibe un front inquiet. Non, il indique par un mouvement de la tête que tout ronronne. Il se déplace. Il semble qu'il va s'adresser directement à la caméra. Oui, on m'informe qu'il va prendre la parole. C'est le cas de le dire, je me sens dans mes petits souliers. Et vous aussi, à la maison sans doute, on écoute le docteur Brasseur. J'ai l'honneur d'annoncer à la nation que Sa Majesté la Reine dort. C'est fait.
C'est fait.
Après 13 nuits consécutives d'insomnie chronique, la Reine enfin dort. Quelle émotion. Je ne me souviens pas d'avoir vécu en direct un événement aussi important. Elle dort. Quelle soirée. Quelle soirée.
Bien. Alors, ben, je remercie Larry d'avoir été parmi nous ce soir, d'avoir échangé sur plein de sujets et de nous avoir encouragés, je pense, à résister.
Merci.
Et là-dessus, je vous remercie tous d'avoir été là. Et à la prochaine. Au revoir.
Merci.